Studio Tamani, voici nos informations en français.
Merci d'avoir choisi Studio Tamani pour vous informer, mesdames, messieurs. Bonjour, voici la matinale. Plus de 1200 milliards de francs CFA ont été détournés des deniers publics de 2005 à 2009, selon l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, OCLEI. Les organisations de lutte contre la corruption exhortent les autorités à plus d'action pour lutter contre le phénomène. Les préparatifs du bac se poursuivent à Bamako et à l'intérieur du pays. À Kaï, des groupes d'exercice sont formés dans les maisons et les écoles. Selon des spécialistes, ils permettent aux apprenants d'être plus outillés pour affronter leurs examens. Championnat du monde militaire de football, l'USFAS Dame est aux États-Unis d'Amérique pour représenter le Mali à cette compétition. Les Maliennes joueront aujourd'hui contre la Corée du Sud à 15h30. Tout de suite, le développement de ce titre avec Sekou Gadjigou. Gagné Kanté assure la mise en onde. Les responsables de l'Office central de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite étaient devant la presse la semaine dernière. Cette journée d'échange avec les journalistes portait sur la thématique de la corruption au Mali. C'était en prélude de la journée africaine de lutte contre la corruption. Célébrée le 11 juillet de chaque année, le président de l'OCLEI a révélé que le Mali a perdu en 14 ans plus de 1260 milliards des suites de détournement de deniers publics, entre autres à l'ICICE.
Selon le président de l'OCLEI, de 2005 à 2019, les irrégularités financières au détriment de l'État et des collectivités s'élèvent à environ 1266 milliards de francs CFA. Dr Moumouni Guindo affirme que ce manque à gagner aurait pu servir à financer la construction de 264 hôpitaux de haut standing, de 1767 centres de santé de référence, environ 42 ponts. Il pouvait également permettre la construction de nombreuses écoles et d'autres infrastructures publiques, a-t-il martelé. En octobre 2021, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a remis des rapports annuels de 2019 et de 2020 au président de la transition. L'Office a remis un autre rapport sur la déontologie des agents publics au Mali. Il ressort de ces documents que 9 dossiers d'enrichissement illicite présumés ont été transmis à la justice. Ces dossiers portent sur près de 7 milliards de francs CFA. Et depuis ce temps, de nombreux efforts ont été consentis par les autorités pour lutter contre le phénomène, a laissé entendre le patron de l'OCLEI. Seulement du côté des organisations de lutte contre le phénomène, on regrette que les résultats de ces efforts se font encore attendre. Ces associations estime que la mauvaise gestion des deniers publics perdure toujours, et cela malgré les promesses tenues.
Nous doutons de la volonté politique de lutter contre la corruption. Ces propos sont de l'Association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Selon son président, pour lutter efficacement contre la corruption, il faut que le Mali se dote d'une stratégie nationale. Je vous propose d'écouter Moussa Ousmane Touré, président de l'association. Il est joint par Ali Cissé.
Nous doutons de la volonté même politique de lutter contre la corruption. Il est difficile de gagner cette guerre par les canaux de la délinquance financière. Les délinquants, très souvent, arrivent à contourner les textes pour continuer à voler. L'OCLEI ne va rien faire. Hein. L'OCLEI va essayer de faire semblant de lutter contre les phénomènes, mais n'arrivera jamais. Les milliards détournés chaque année, c'est simplement dû à la faiblesse de nos textes et puis à la volonté politique. Des sanctions ne sont jamais appliquées. Les délinquants se disent on est dans un pays où même si tu détournes des milliards, rien ne t'arrivera. Voilà pourquoi chaque année, au lieu que ça régresse, ça progresse.
Faites un tour sur la page Facebook et le compte Twitter de Studio Tamani pour réagir à toutes ces informations. 8h04 à Bamako, nouveau rebondissement dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Selon des médias français, l'ONU aurait affirmé que ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien NSE. Les Nations Unies prennent donc le contre-pied du communiqué du Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire. Celui-ci stipulait ce mardi que ces 49 militaires sont de l'armée ivoirienne et sont arrivés au Mali dans le cadre des opérations d'éléments nationaux de soutien. Khalifa Goïta nous en dit plus.
L'ONU dit avoir épluché les fichiers de personnel et en est sûr. Ces 49 hommes ne sont pas des éléments nationaux de soutien. L'organisation affirme qu'elle ne peut pas déterminer dans quel cadre ces éléments étaient à Bamako. Elle ne saurait non plus dire le lien contractuel de ces soldats avec la société SAS censée les embaucher. L'organisation n'aurait jamais autorisé les armes de ces hommes transportées dans un deuxième avion. Le porte-parole du gouvernement ivoirien a dénoncé dans la journée la mise en doute des conclusions du Conseil de sécurité nationale. Selon lui, cela est une forme de banalisation des institutions du pays qui ne saurait être acceptée. Ce mardi, les autorités ivoiriennes ont demandé la libération sans délai des 49 soldats arrêtés au Mali. Après une réunion du Conseil national de sécurité, elles avaient indiqué que ces militaires qualifiés de mercenaires par le gouvernement malien sont de l'armée ivoirienne. Leur arrivée qui s'inscrivait dans le cadre de la NSA avait été notifié aux autorités maliennes selon elle.
Et après cette dénonciation du gouvernement ivoirien, le média français est revenu sur sa première information, celle qui rapportait que l'ONU avait dit que ces militaires ne faisaient pas partie des éléments nationaux de soutien. Le média a finalement laissé entendre que la version livrée par les autorités ivoiriennes correspond à celle des Nations Unies. La ministre allemande de la Défense a aussi exigé hier la libération des 49 soldats. L'espoir renaît pour la relance du chemin de fer après plusieurs années d'arrêt. Le train a sifflé ce mercredi à la gare de Bamako. Un voyage d'essai Bamako-Kai a été organisé, une manière d'évaluer les travaux de réhabilitation effectués avant la relance du trafic proprement dit. Notre reporter Lale Tangara a suivi le départ du train. Voici son reportage.
Gare ferroviaire de Bamako, ce mercredi matin, il est 8h. Sur les rails, une locomotive et une rame de plusieurs wagons sont positionnés. À l'intérieur, des techniciens, mais aussi des responsables de la Société du patrimoine ferroviaire, SOPAFER. Le train doit quitter Bamako pour Kai, un voyage test avant la relance de l'activité ferroviaire. Ce moment a été longtemps attendu, selon la ministre des Transports et des Infrastructures, Dambélé Madina Sissoko.
Nous sommes là ce matin à la gare ferroviaire de Bamako pour procéder au lancement de l'essai du trafic voyageur entre Bamako et Kai. Depuis longtemps, le chemin de fer du Mali est à l'arrêt depuis 2018. C'est les techniciens maliens qui ont eux-mêmes mis la main à la pâte sans aucune intervention extérieure.
Les derniers réglages finis, le train siffle et démarre pour Kai à 8h45. L'attente aura été longue. Après 4 années d'arrêt, des cheminots jubilent et espèrent que ce voyage test sera la reprise définitive du trafic ferroviaire. Abdoulaye Berté, ancien secrétaire général des syndicats du chemin de fer.
Une joie immense, ce qui me concerne. Une joie immense, ce qui concerne l'État. Parce que le train fait partie de l'économie du Mali. Nous leur souhaitons vraiment bonne chance et bon courage pour la bonne continuité vraiment de la circulation des trains qui va dans l'intérêt national et dans l'intérêt de certains villages qui en souffrent beaucoup.
Plusieurs travaux ont précédé ce démarrage, selon la ministre des Transports. Parmi ceux-ci, le renforcement de la voie ferroviaire, la rénovation de 19 gares et la réhabilitation des ponts de Galuko, Maïna et Tukoto. La ministre annonce aussi l'arrivée prochaine de 3 locomotives.
Et le train qui est arrivé hier à Kai. Nous y restons d'ailleurs à quelques jours de l'examen du baccalauréat. Des groupes d'exercice sont mis en place par les candidats dans les écoles et les maisons dans cette ville. Quel est l'intérêt de la formation de ces groupes et que pensent les pédagogues de cette stratégie d'apprentissage? Notre correspondant à Kai, Mahamadou Samba Diallo, s'est intéressé au sujet.
Pour les candidats au baccalauréat, ces groupes de travail sont un lieu de partage de connaissances et d'astuces entre élèves. Ils permettent aussi aux apprenants de se conseiller mutuellement.
Pour ne pas être en difficulté dans la salle d'examen et pour s'entraider avec les autres. S'il y en a qui sont en difficulté, peut-être le maître ne peut pas tout expliquer en classe. Bon, nous expliquerons ça avec les autres.
On a mis en place ce groupe d'exercices pour que ça nous permette de bien connaître des sujets et bien traiter des sujets.
Du côté des pédagogues, on estime que le travail en groupe est la clé de la réussite aux examens. Cependant, ils conseillent aux candidats de le commencer dès les premiers jours de la rentrée scolaire. Hanei Walet Assalé, conseillère pédagogique Cap Kai RG.
Les groupes de travail doivent se constituer depuis le début de l'année. Ça permet aux élèves d'être au centre de leur apprentissage. Ça permet aux élèves de faire des recherches. Ça permet aux élèves de communiquer. Et ça permet aux élèves de s'entraider entre eux. Voilà l'importance même de la constitution des groupes de travail.
Il est à rappeler que les épreuves écrites du baccalauréat malien session de juillet 2022 vont démarrer ce lundi 19 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Dekaï Mahamadou Samba Diallo pour le studio Tamani.
Direction Ségou à présent. Sur 476 nouveaux-nés hospitalisés au service de pédiatrie de l'hôpital Nyanakoro Famba de Ségou en 2017, 119 sont décédés, soit 25% de taux de mortalité néonatale. C'est ce que révèle une étude menée en 2017-2018. Les résultats de cette enquête ont été présentés la semaine dernière. Pour les responsables de l'hôpital, selon ces derniers, plusieurs facteurs expliquent cette hausse de la mortalité néonatale. Écoutons Abdoulaye Kassogué, médecin pédiatre à l'hôpital régional Nyanakoro Famba. Il est au micro de Mohamed Sissé.
Dans la région de Ségou, selon une étude que nous on a faite, c'est autour de 25%. Nous avons remarqué qu'il y a plusieurs causes parmi ces causes. C'est la prématurité. La deuxième cause, c'est la souffrance. Les femmes qui ont des accouchements difficiles. Troisième cause, c'est l'infection. Pour diminuer la mortalité néonatale, il faut agir à différents niveaux. Déjà dans la communauté, et sur le plan nutritionnel, sur le plan psychologique et sur le plan de la santé. Chaque fois qu'elle est malade, on doit la soigner. Ce qu'il faut pour améliorer la santé du couple mère-enfant, il faut bien former les prestataires de santé. Il faut les matériels, les médicaments, mais il faut beaucoup de sensibilisation aussi dans la communauté.
Cap à présent sur 100, toujours dans le centre du pays, la campagne hivernale dans les plaines rizicoles du Centre Ouest vient de démarrer pour cette année. 2685 hectares seront exploités par 5790 riziculteurs. La coopérative des riziculteurs de la plaine aménagée du Centre Ouest, Corpazo, assure que les dispositions sont prises pour la réussite de la campagne. Selon elle, la campagne s'annonce bonne. Les champs sont à la phase d'installation des pépinières. Ali Sanogo, technicien à la Corpazo, est au micro de notre correspondant Irénée Diarra.
Corpazo, c'est une coopérative des agriculteurs de la plaine aménagée de Saint-Ouest. Donc nous avons 2685 hectares qu'on doit exploiter cette année. Nous avons établi un calendrier agricole. On a demandé à tous les riziculteurs de commencer à partir du 3 juillet pour installer leur pépinière dans la partie submergée contre le fer des semis directs le 25 juillet. Donc on va faire la mise en eau pour la partie maîtrise totale. Et le 10 juillet, on va commencer la mise en eau pour la partie submergée contrôlée. Donc en dehors de ça, on a conseillé aux gens de chercher des semences certifiées et que ces semences-là se trouvent au niveau des magasins sémenciers de la coopérative ici, certifiés au niveau de l'AOSEM de Ségou.
8h13, la page sportive de cette édition. La 13e édition du championnat du monde militaire de football féminin a débuté le 9 juillet aux États-Unis. Elle se poursuivra jusqu'au 24 pour la première fois. L'USFAS Dame y défendra le drapeau malien. Le Mali est dans le groupe B en compagnie du Canada, des Pays-Bas, de la France et de la Corée du Sud. Les dames de l'USFAS affronteront ce jeudi 14 juillet la Corée du Sud. Selon des spécialistes, elles ont les capacités nécessaires pour gagner ce match. Souleymane Bobo-Tunkara, journaliste sportif à l'essor, est joint par Amsé Doutouré.
Nous sommes dans une poule très relevée. Hein. Quand on voit le nom de ces pays, le Canada, la France, les Pays-Bas et la Corée du Sud, on se dit tout de suite que ça va être extrêmement compliqué, surtout pour une équipe de l'USFAS qui participe pour la première fois à la compétition. Mais je pense que dans ce genre de compétition, le début est très, très extrêmement important. Donc le premier match que nous allons jouer contre la Corée du Sud peut être un match pas forcément décisif, un match très important pour l'équipe pour la suite de la compétition. Si on arrive à négocier ce match, je pense que ça va donner confiance au groupe, ça va mettre la pression sur notre prochain adversaire. Quand on regarde également sur le papier, on peut dire que par rapport au Canada, la France ou encore les Pays-Bas, la Corée du Sud peut être considérée comme l'un des petits poussés de cette poule avec le Mali. Donc je pense que le fait de tomber sur la Corée du Sud pour le premier match peut être quelque chose de bien pour l'histoire.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Le reste de l'actualité en quelques brèves, des cartons de savon, des seaux et bassines, des cartons d'eau de Javel, des balais, des fauteuils roulants ont été remis dimanche dernier au centre de santé communautaire de Maïna. La valeur du don est estimée à plus de 500 000 francs CFA. Cette donation est d'une habitante de la localité. Le geste a été salué par les associations féminines qui s'occupent de l'entretien du CSCOM. À 8h passées de 15 minutes se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde est assurée par Gagny Kanté. Sekou Gadjigo vous l'a présenté tout de suite. La question A. Notre invité du jour s'appelle Modibo Maomakalu, il est économiste. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a levé ses sanctions prises à l'encontre du Mali ce mardi 12 juillet. Cette levée intervient une semaine après celle de la CEDEAO et de l'UEMOA. Selon l'économiste Modibo Maomakalu, cette levée des sanctions, bien qu'elle soit une suite logique, peut provoquer la reprise des investissements. Il est interrogé par Draman Maïga.
Les sanctions ont exclu l'État du Mali et les banques maliennes en grande partie du système de paiement de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Même si les banques commerciales et les établissements de crédit ont pu se faire refinancer auprès de la Banque centrale, cela n'a jamais été à hauteur de souhait, c'est-à-dire les banques maliennes, contrairement aux banques des 7 autres pays, n'ont jamais obtenu 100% des refinancements sollicités auprès de la BCAO depuis le 9 janvier. Et nous espérons que lors de la 28e injection des liquidités de la BCAO, que les banques maliennes vont obtenir la totalité de la trésorerie sollicitée auprès de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire 100% des montants sollicités. Et cela va affecter aussi leurs clients, qui sont les ménages et les entreprises maliennes.
Alors, quel est le rapport entre ces différentes institutions, notamment la CEDEAO, la BCAO et l'UEMOA?
L'Union économique et monétaire ouest-africaine a en charge l'intégration économique pour les 8 pays qui ont en partage le franc CFA. Et l'Union monétaire ouest-africaine regroupe les 8 pays qui ont en partage le franc CFA et qui ont pour banque centrale la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc l'UEMOA a en charge la mise en œuvre de la politique monétaire. Tous les pays membres de l'UEMOA et de l'UEMOA sont membres de la CEDEAO.
Cette levée permettra-t-elle de relancer l'économie malienne?
Nous pensons quand même que maintenant que le Mali est de retour, aussi que l'État pourra aussi accéder au marché financier, mais aussi au marché des titres publics de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour financer sa trésorerie, pour financer les dépenses publiques urgentes et donc aussi pour pouvoir rembourser aussi les emprunts, parce que vous savez, en 2021, l'État malien avait quand même emprunté sur ce marché financier et monétaire sous-régional 897,5 milliards de francs CFA.